France Musique. Les grands entretiens, Anne Montaron, France Musique.
Je suis Edith Canachisi, je suis compositeur, académicienne, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Je suis née le 26 mars 1950 à Lyon.
Edith Canachisi, vous avez grandi dans une famille pas tout à fait évidente, avec des valeurs de l'aristocratie lyonnaise, avec un père à vocation militaire, trois filles, deux garçons, une mère un peu en souffrance, qui subissait l'autorité du père, les enfants qui subissaient l'autorité du père. Vous avez grandi dans les années 50-60, avant mai 68, avant la libération, le féminisme et tout un tas d'émancipations. Quelles étaient justement les relations hommes-femmes ou filles et garçons dans cette famille ?
Ah ben moi j'ai vu, j'ai vraiment grandi dans un milieu extrêmement misogyne. Je n'ai pas peur de dire le mot, hein. Aussi bien de la part de mes frères que de la part de mon père. Il en est résulté pour moi une révolte, pas à mon sujet du tout, parce que moi j'étais complètement en dehors du jeu. Étant la dernière, j'étais beaucoup plus spectatrice que d'avoir subi ça. Mais par contre, j'ai nourri une révolte, une révolte personnelle, non pas du tout pour m'imposer en tant que femme, ça j'avais pas besoin de ça. C'est quelque chose qui m'a jamais, sur lequel je n'ai jamais douté. Mais sur la façon dont étaient traitées ma mère et mes sœurs. Et c'est vrai que le fait de partir si jeune, de quitter quand même ma famille, de quitter mon milieu, parce que c'est ça que je voulais, en fait. Je voulais quitter ce milieu et plonger mes racines ailleurs. Ça a été quand même une mutation très, très difficile pour moi. Je l'ai vécu quand même assez jeune, 19 ans, et puis brutalement, en plus. Mais c'est moi qui l'ai voulu. Je le regrette pas du tout, mais ça a été difficile. Mais pas du tout, je ne m'en suis jamais servi comme d'une revanche pour m'imposer en tant que femme. Ça, pour moi, ça m'a toujours été étranger. C'est-à-dire que j'étais ce que j'étais, je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais homme ou femme. J'étais une femme, j'étais moi, quoi. Je me suis toujours sentie extrêmement différente de mes frères et sœurs. Et je pense que c'est un sentiment de différence quand on a un autre destin. On sent très tôt qu'on est différent des autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Parce que tout le temps de mon enfance, je me demandais ce que je faisais là. Je regardais ma famille, parce que j'étais évidemment beaucoup plus petite, je voyais ma famille autour de moi et je me disais, mais il y a dû avoir une erreur. Je viens d'ailleurs et il y a dû avoir une erreur. Et il y a eu une erreur de parcours, c'est évident. Donc c'est vrai que le sentiment de différence est quelquefois difficile à vivre quand on a autre chose à faire.
Vous n'aviez pas d'attache à cette ville de Lyon.
Non, c'est pas ça. C'est que je me suis très vite rendu compte. J'ai été élevée chez les Sœurs du Sacré-Cœur. Enfin, j'ai fait un parcours tout à fait habituel dans ce genre de famille. Mais quand j'ai eu mon bac et que j'ai commencé à sortir dans la société lyonnaise, j'ai senti le piège d'un destin tout tracé. Et je me suis dit, ah non, ça c'est pas possible. Et donc j'ai senti que si je ne partais pas très tôt, le piège allait se refermer sur moi.
Il fallait vous échapper.
Il fallait que je m'échappe. Et donc c'était très difficile parce que mes frères et sœurs étaient partis, étaient mariés, j'étais toute seule avec mes parents. Et bien évidemment, mon père ne voulait pas me laisser partir. Et j'ai ourdi un complot que je ne relaterai pas ici, mais tant et si bien qu'il a été obligé de me laisser partir. Voilà. Et en plus, j'avais donc l'appui de mon professeur de violon, qu'il aimait beaucoup. Et puis j'avais aussi l'appui d'une ou deux personnes à Paris qui m'ont recommandé. Enfin bref, finalement, c'était en décembre 1969. J'avais donc fait déjà un an d'études d'histoire de l'art à l'Université de Lyon. Et là, j'ai bien pris soin de faire un transfert de dossier en m'inscrivant à l'école du Louvre à Paris, parce que c'était une école qui n'avait pas son équivalent en province et que c'était la seule solution pour que mon dossier soit transféré à Paris, que je puisse continuer mes études universitaires à Paris. Parce qu'évidemment, dans le fait qu'il n'était pas question de faire de sa profession la musique, il y avait aussi le fait qu'il n'y avait que les valeurs intellectuelles qui primaient. Donc il n'y avait que les études universitaires, que la musique était un amusement. De toute façon, les musiciens étaient des gens incultes. Et que, voilà, un petit peu l'idée, le portrait qu'on m'avait fait du musicien. Et puis que, en plus, c'était pas un milieu très recommandable pour une femme. Voilà. Ça, c'était aussi en sous-main.
Vous évoquiez les sœurs tout à l'heure. J'ai été élevée par les sœurs.
Oui. Alors les sœurs, ben ça j'en garde un bon souvenir. J'en garde un souvenir un peu amusé parce qu'il y avait quand même des pratiques assez curieuses, mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. Oui.
Mais vous n'étiez pas en pensionnat?
Non, j'étais pas pensionnaire. Non. J'habitais Place Bellecour et je faisais l'aller-retour deux fois par jour.
Ah oui, deux fois par jour.
Ben oui, parce que on était vraiment à 800 mètres, quoi.
C'était à l'époque du collège, du lycée?
À l'époque de toute petite, hein, je partais déjeuner, je revenais pour 2 heures et je revenais le soir.
Donc c'était une famille très, très pieuse, très religieuse.
Oui, très, très pieuse, ouais. Très religieuse, oui, tout à fait.
Il y a une trace de ça, Edith Kanachizi, dans votre musique, évidemment. La Bible est présente dans les œuvres vocales, les psaumes, les prières du soir.
Tout à fait, mais ça je le dois beaucoup plus à ma propre recherche personnelle. Oui. Disons que j'ai eu une éducation. Disons que j'ai été portée dès l'enfance. J'étais très intéressée justement par la religion dès oui. l'enfance. Et puis il y a eu un moment où je me suis dit tout ça c'est pas vrai. Et j'étais à un moment où je me suis posé moi-même la question. Je me suis dit bon, je veux absolument savoir si c'est vrai ou pas. Pour pouvoir continuer à savoir si j'abandonne tout ça ou pas. Et puis c'est là où j'ai eu vraiment une expérience personnelle qui a été, j'avais peut-être 20 ans, oui, 20 ans, 21 ans, qui a décidé de la suite. Et je pense que c'est ça qui a fait que je me suis vraiment approprié un sentiment, un itinéraire spirituel, plus que religieux. J'ai vécu une conversion à ce moment-là, oui, qui a été extrêmement forte, oui.
Que vous avez pu partager avec quelqu'un ou c'était...
Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr, oui, oui.
France Musique, les grands entretiens d'Edith Kanachizi.
Vous arrivez à Paris, vous avez 19 ans, quelque chose comme ça. Quelle impression vous fait la ville de Paris après cette grande, grande période lyonnaise?
Alors, la première chose que j'ai appréciée d'abord, c'est l'anonymat. C'est-à-dire de pouvoir me promener sans qu'on dise « Ah ben tiens, j'ai vu ta fille telle rue aujourd'hui ». Ce qui était le cas à Lyon, bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas faire un pas sans qu'on rencontre tel ou tel, surtout dans le petit microcosme de la presqu'île. Donc c'est l'anonymat. Je me souviens que c'est ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Après, c'était très difficile. Et j'ai vraiment dû faire une mutation par rapport à mon milieu, par rapport à tout l'environnement qui m'était familier. J'avais jamais vécu seul. Ça a été vraiment très difficile. Là, je me suis accrochée. Mais je n'ai jamais, jamais remis en question le fait d'être partie. Jamais je n'ai regretté, jamais je n'ai voulu revenir. Ce sur quoi peut-être comptait mon père, c'est-à-dire... Bon, elle va se lasser, ça va durer 2 mois, puis elle va revenir. Non, non, ça, jamais. Jamais. J'ai commencé par être dans une petite chambre de bonne. Et quand j'ai commencé à sortir mon violon, tout le monde est sorti, évidemment, sur le palier. Je me suis dit, là, ça va poser un problème. Et heureusement, ma tante, qui était vraiment comme un ange gardien, m'a trouvé à ce moment-là un appartement, enfin une personne pas très loin d'ici. D'ailleurs, je passe sous les fenêtres pratiquement tous les jours. Cabranly, qui habitait une partie de l'étage et louait l'autre partie de l'appartement. Alors, j'avais une grande chambre et j'avais une demi-pension et là, je pouvais faire toute la musique que je voulais. Alors, j'ai donc continué à travailler mon violon. Et puis après, la rentrée suivante, j'ai repris mes études d'histoire de l'art. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré quelqu'un qui était un petit peu dans la même position que moi, c'était Loïc Mallier. L'organiste. Qui fait une licence de droit et qui venait d'entrer dans les classes d'écriture. Et alors je lui ai dit, Loïc, écoute, est-ce que tu peux pas m'initier à l'harmonie? Parce qu'il me reste assez peu de temps pour me présenter. Il me dit, mais tu t'es très sain, non, c'est pas possible. Je dis, si, je suis sûr que je vais y arriver. Et j'ai fait tout mon traité d'harmonie en un an.
Et je suis rentrée en harmonie. Oui, ça veut dire que le violon ne suffisait pas. Vous aviez envie d'étudier l'écriture.
C'est-à-dire que je n'étais pas au niveau sur le plan violonistique pour entrer au CNSM. Ça, c'est normal, parce que je n'avais pas travaillé de façon justement professionnelle.
Et pourquoi le choix de l'art archéologie, art et archéologie, et ensuite philosophie, pourquoi ces choix-là ?
Alors en fait, j'ai toujours été très intéressée, justement, à partir d'un certain temps, on voit que toutes les choses qu'on ne comprenait pas, pourquoi on a vécu telle chose, prennent leur sens. C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressée par l'histoire de l'art, et notamment par l'art contemporain. Et quand j'ai fait mes études à la Sorbonne, donc en histoire de l'art, j'avais fait justement un certificat d'art contemporain, ce qui fait que je connaissais très très bien la peinture contemporaine, la sculpture, l'architecture, ce que je retrouve maintenant à l'Académie des Beaux-Arts. C'est assez formidable, parce que je suis donc en relation avec les architectes, les peintres et les graveurs. Voilà, et donc je vois que c'est quelque chose finalement qui m'a toujours suivi, enfin qui a toujours été dans ma vie, présent dans ma vie, et qui est présent dans ma musique aussi, puisque j'ai beaucoup de pièces qui sont en relation avec la peinture notamment.
Alors parlons peut-être de ces peintres et de ces sculpteurs, parce qu'il y a aussi Bourdelle, hein, donc il n'y a pas que de la peinture, mais il y a Turner, il y a Van Gogh, il y a De Staël, évidemment Nicolas De Staël aussi.
Tout à fait.
Alors Nicolas De Staël, puisqu'on évoquait ce peintre-là, pratiquait les aplats de couleurs, des choses assez épaisses. Hein.
Oui, au départ, oui.
Si on compare à Whistler ou à Turner, on n'est pas du tout dans les mêmes tonalités.
Pas du tout, du tout. Non, pas du tout, c'est complètement différent. Non,
Et pourtant, vous avez été attirée aussi dans vos œuvres par Turner.
Oui, mais parce que justement, c'est la façon de traiter justement ce matériau qui est intéressant chez les peintres. Et la correspondance qu'il y a avec, une texture, justement, une texture sonore. Moi, ce qui m'a intéressé chez Nicolas de Sales, c'est cette quête de la lumière qu'on voit dès ses premiers tableaux. Mm-hmm. Par exemple, dans le tableau de, justement, des rayons du jour, le matériau est assez épais, mais il y a toujours au fond du tableau cet appel vers la lumière, enfin cette lumière qui est toujours, toujours présente. Et la couleur des rayons du jour m'a tout de suite évoqué la couleur de l'alto. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai fait ce concerto et que dans ce concerto, je retrace en fait tout le parcours. Ce qui habite très souvent d'ailleurs mon œuvre, c'est le sens de la trajectoire. J'ai retracé le parcours pictural, c'est-à-dire j'établis toujours un rapport, il me semble qu'il y a un rapport très étroit entre la matière picturale et la matière sonore. Donc chez Nicolas de Sales, il commence avec une matière picturale très épaisse, très noire, très sombre, et il termine avec, il n'y a pratiquement que le grain de la toile, dans cette quête de la lumière qui a été la sienne. Et puis un autre aspect qui m'intéressait chez lui aussi, c'était le mouvement, les footballeurs. Donc ça aussi c'est, et puis à la fin justement quelque chose qu'il n'a pas su maîtriser et qu'il disait à la fin de sa vie en parlant de la lumière, il y a un mur entre la lumière et moi, et si je passe à gauche de ce mur, il faut que je me débarrasse de ma carcasse d'homme pour pouvoir y accéder. Voilà, donc c'était cet itinéraire là qui m'intéressait.
Alors c'est quoi le matériau musical ? C'est comme une glaise qu'on sculpte, ça peut être un instrument, ça peut être une couleur, ça peut être...
C'est pour moi, c'est le sens de la texture dont je parlais tout à l'heure, c'est de créer une texture sonore à partir de tel ou tel ingrédient et telle sonorité. Alors, comme un sculpteur se trouve devant un bloc de pierre et qui commence à le tailler et petit à petit ce bloc prend forme.
C'est ça.
Et pour moi, je dis souvent que je parle souvent du passé du flou au net. Je fais la comparaison de l'objectif photographique. C'est-à-dire qu'on se trouve devant quelque chose qui n'a pas de forme, mais qu'on peut considérer comme un matériau, une idée musicale, quelque chose comme ça qui est quelque part, et petit à petit, à force de l'approcher, de le sculpter, oui, on arrive à avoir quelque chose de net, une idée très nette de ce qu'on veut écrire. Alors chez Whistler, justement, là, Whistler, c'est tout le rapport avec Debussy.
Oui.
Le rapport avec Debussy, Debussy aimait énormément Whistler. Alors c'est toute la série des nocturnes.
En bleu et noir.
En bleu et or, en bleu et argent. Et mon dernier quatuor à cordes en noir et or. Et Debussy, quand même, a écrit une pièce piano qui s'appelait En blanc et noir. Et alors, ce que j'ai aimé chez Whistler, c'est d'abord, j'ai écrit une pièce en bleu et or, donc c'est la baie de Southampton, où tout est immobile, mais par contre, il y a toujours des ombres qui suggèrent le mouvement. Et par contre, en noir et or, alors là, c'est un feu d'artifice.
Vision nocturne, oui.
Avec justement un matériau pictural qui est extrêmement fluide. Et c'est un tableau qu'il a peint, qui se vantait d'avoir peint très vite, ce qui était très très mal perçu à l'époque. Et on lui en a beaucoup beaucoup critiqué à ce propos. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressé, c'est la rapidité du geste. Parce que, outre la texture dans ma musique, le geste est quelque chose de très important. Donc, il y a aussi ça chez les peintres. Non seulement le matériau, mais le geste. Et on perçoit justement quel geste, la rapidité du geste, ou la lenteur du geste, ou le...
Et oui, donc en l'occurrence ça, ici, les fusées, effectivement.
Voilà.
La fugacité de ces mouvements-là, oui.
Oui.
chez Turner, alors c'est la lumière.
Alors chez Turner, chez Turner, ça c'est formidable, parce que chez Turner, pour moi, ce que j'appelle l'univers sonore en expansion, c'est-à-dire que il n'y a pas de limite. C'est une sorte de big band qui n'en finit pas de d'irradier. C'est quelque chose. C'est une peinture qui irradie.
Et
ça, c'est aussi une de mes préoccupations de d'outrepasser les hauteurs traditionnelles des instruments par le biais des harmoniques, par le biais des richesses de timbre, justement, notamment par le quatuor à cordes, justement, des jeux sur le ponticello, sur le tasto, etc., qui font que on est bien au-delà de la note, on est bien au-delà des hauteurs, on est dans un univers sonore qui pour moi voudrait aller dans l'inaccessible donc c'est ça que je trouve chez Turner.
L'inaccessible, l'impalpable, l'au-delà, tout ça sont des notions qui vous sont très très chères, Edith Kanachisi. Il y a toujours cet arrière-plan de quête de l'absolu et lié peut-être à une expérience sacrée spirituelle en tout cas.
Une expérience spirituelle, oui, bien sûr. Ça, je sais que ça fait partie intégrante de moi-même. Plus j'avance, plus je vois que je suis née avec. Enfin, et donc cette façon de suggérer tout ce qui nous dépasse et de mettre en œuvre les moyens musicaux qu'on a à notre disposition pour le suggérer.
Compositeur de la couleur, Edith Kanachisi a visité plusieurs fois la peinture de Turner. C'est le cas dans Pluie, Vapeur, Vitesse, joué ici par les musiciens de l'ensemble Court Circuit, direction Jean de Royer. C'était le deuxième épisode des Grands Entretiens d'Edith Kanachisi, une émission réalisée par Marie Groux, avec Alexandra Bergel, Valérie Lavalard, Bastien Varigo, Flora Sternadel et Aude Vassan. La suite de ce portrait demain à la même heure, podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.